Bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Moi, je suis très impressionné de voir que un sujet peut-être un peu médiatisé, un peu politique et un peu contesté ou contestable suscite un tel intérêt de votre part. Donc, merci à tous d'être là. J'ai tendance à parler vite, donc freinez-moi si, en particulier pour les expressions techniques que j'utilise, vous avez l'impression que ce sont des choses que vous ne connaissez pas. Je pourrais vous le traduire en allemand ou en anglais si ça vous va. J'ai compris que vous êtes des étudiants qui avaient au moins quatre semestres derrière vous, tous d'études d'économie, entre 4 et 6 semestres, si j'ai bien compris. Donc j'espère que les notions bancaires, les notions comptables auxquelles je vais me référer sont des notions qui sont connues d'entre vous. Là aussi, si ce n'est pas le cas, surtout interrompez-moi. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de procéder, mais je crois que garder les questions pour la fin, ça permet d'être dans un seul courant de tout ce qu'on dit, mais d'un autre côté, si les choses ne sont pas comprises pendant que je parle, ça ne sert à rien d'attendre la fin pour poser des questions. Donc, si monsieur le professeur Stégu est d'accord,
ne soyez pas timide,
hein. N'hésitez pas à m'interrompre et à dire que je parle trop vite qu'il y a des notions que vous ne comprenez pas. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour voir les quelques slides de présentation. Je ne sais pas très bien comment vous allez réussir à... Je ne sais pas, il faut que je me cache derrière l'écran. Je ne sais pas comment on peut faire. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'on peut... C'est pas chaud encore?
C'est dans les... Ben, voilà.
Ça va mieux pour là? OK. Bon, vous voyez les logos des trois institutions qui nous réunissent aujourd'hui. Votre université, les conseillers du commerce extérieur de la France dont l'ambassadeur a parlé, et puis Erst Bank, puisque c'est pour cette banque que je travaille. Donc, si ça vous intéresse, on pourra parler plus tard de ce que je fais. Alors, get me. Voilà. OK, voilà. On va. Alors, je vous propose, vous avez vu le titre de notre réunion, être banquier international pendant et après la crise. 5 mots importants. Alors, je vous propose quelques sujets. Alors, j'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Voilà. Alors, premièrement, les fondamentaux du fonctionnement d'une banque. Beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont écrites. Je pourrais vous l'envoyer en PDF si vous voulez après, hein, parce que je vois que certains d'entre vous prennent des notes. Si vous voulez, je pense que le professeur Stégu peut le faire circuler. Beaucoup de choses sont dites et écrites par des analystes de Los Angeles, de Londres, qui ne savent probablement pas faire la différence entre Belgrade, Vienne et Varsovie. Beaucoup de choses sont écrites par des journalistes qui, au prétexte de vendre leurs journaux, d'avoir beaucoup de journaux et d'éditions vendues tous les jours ou toutes les semaines, racontent des choses qui sont mal recherchées. Donc, je vais vous préciser, donner quelques notions de base, et vous me direz si elles vous sont déjà connues, sur les fondamentaux du fonctionnement d'une banque. D'abord, la notion d'actif passif. Ça, c'est en français. En anglais, on parle de ALM, Asset and Liability Management. Si vous connaissez tout ça, je passerai très vite. Hein. On y arrive maintenant. Les questions de cadre réglementaire, fonds propres, distorsion de concurrence. Toujours dans le cadre du fonctionnement d'une banque. Alors, le cadre réglementaire et les fonds propres, c'est par exemple la notion de Basel II. Et puis, par exemple, également, un autre sujet qui est ressorti ou qui a gagné en actualité à cause de la crise, qui est ce qu'on appelle en anglais la notion de migration. Je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne les connaissez pas. Il y a aussi la notion des la question et le rôle des actionnaires institutionnels dans l'optique de la rentabilité des fonds propres d'une banque. C'est important quand beaucoup de ces actionnaires institutionnels sont des caisses de retraite qui doivent assurer le paiement des retraites de leurs membres alors que nous vieillissons tous et que le nombre d'années pendant lesquelles des retraites vont devoir être payées, augmentent, nous savons tous. Alors, les mécanismes de la crise, Les mécanismes de la crise, il y a probablement deux sujets sur lesquels on peut revenir, qui sont des sujets connus. Le premier, c'est la faillite de Lehman Brothers. Bon, je vais vous dire ce dont il s'agit, quelles en ont été les conséquences. Et puis un autre sujet, je vous ai mis les mots en trois langues, ce qu'on appelle titrisation en français. En allemand, vous parlez de faire Verbriefung, et en anglais, on parle de securitization. Et puis le sujet subprime. C'était les principaux mécanismes de la crise, et puis alors qui débouchent sur les nouvelles règles prudentielles qui sont en préparation, pour lesquelles il y a des propositions qui ont été faites, et qu'on appelle Basel Dry. Alors maintenant, le sujet de l'image des banques. Ça, c'est un sujet éminemment explosif, discuté. Alors, il y a le rôle des banques dans le financement de l'économie, dans ce contexte. Évidemment, la question des horribles bonus des traders que vous voulez, j'imagine, tous devenir. Il y a le sujet de Basel Dry. Toujours dans le contexte de l'image des banques. C'était les trois premiers blocs de sujets que je vous propose d'aborder. Alors, après, on peut passer sur le rôle des banques autrichiennes. Vous savez qu'elles ont été en particulier... Vous me dites si je parle trop vite. Vous savez qu'elles ont été beaucoup... Elles ont fait l'objet d'articles très négatifs au cours du premier trimestre ou des quatre premiers mois de l'année dernière. Articles tous écrits, naturellement, par des journalistes anglo-saxons. Alors, il y a le positionnement dans les pays de la CE, d'une part, et puis la question de l'exposition, de l'engagement des banques autrichiennes dans ces pays-là. Ce sont des sujets, j'imagine, qui vous sont connus. J'ai fait exprès de choisir des sujets un peu polémiques, histoire de ne pas être pas faire d'intervention trop ex cathedra. Puis après, je peux vous parler de mon métier, du métier de banquier, un métier fondamentalement passionnant, la diversité qu'on peut y trouver. Je peux vous parler de moi, si ça vous intéresse. Monsieur Stegu m'a demandé de vous raconter comment un Français arrive dans une position intéressante à la Erste Bank Aviennes. Donc, si ça vous intéresse qu'on en parle, ben c'est pas le plus passionnant. Et puis après, on terminera donc sur le titre de mon intervention. Alors, est-ce que ce sont des sujets qui vous intéressent d'abord, ou est-ce qu'il y en a qui vous paraissent soit complètement connus, soit sans intérêt, ou est-ce que ça vous va qu'on suive ce programme et ce... Pas d'objection ? Bon, si, oui.
Les sujets sont très intéressants, mais si vous avez la gentillesse de ne pas parler trop vers le mur d'en face...
Ah, d'accord. D'accord. Bon, alors je vais me mettre là. C'est pas à cause du mur d'en face, ni à cause de l'ambassadeur, avec tous les respects que je lui dois, mais c'est à cause de l'écran qui est là. D'accord. Alors, les fondamentaux d'une banque, d'abord. Deux mots de comptabilité sur ce que c'est qu'un bilan d'entreprise ou un bilan de banque. J'imagine que vous connaissez tous tout ça. Je commence par ce qu'on appelle le passif, c'est-à-dire les ressources. Quand vous créez une société, la première chose, c'est l'idée. Et l'idée, c'est l'actif. Mais il faut bien de l'argent pour financer cette idée. Donc, je vais commencer par le passif. Donc, vous avez d'abord, je parle des grands blocs de poste, hein, le capital et les réserves. Deuxièmement, les instruments de dette qui sont émis sur les marchés des capitaux, les emprunts obligataires, par exemple, quelle que soit la durée. Vous avez ensuite les dépôts de la clientèle, privés, entreprises, institutionnelles. Et vous avez enfin... le bénéfice. Voilà, pour faire simple, les quatre grands éléments de ressources qui vont au passif d'une entreprise et qui vont au passif d'une banque. Alors, si on passe à l'actif maintenant, c'est-à-dire l'emploi, qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent ? Alors, vous avez ce qu'on appelle les immobilisations, je vais commencer par les immobilisations corporelles, les voitures, les immeubles, les immobilisations incorporelles, alors ça c'est par exemple le goodwill, ou la valeur des marques, dans un groupe comme LVMH, par exemple, que vous connaissez certainement tous, a beaucoup de marques. Et bien, ces marques, elles ont une valeur, alors on l'estime comme on peut, et elle est mise à l'actif du bilan. Après, vous avez les crédits qui sont faits à la clientèle, ça c'est le secteur bancaire cette fois-ci. Et puis après, vous avez d'autres actifs qui sont... j'ai simplifié, donc j'ai appelé ça autre actif. Bien. Alors, gardez bien ça à l'esprit, voilà la structure classique du bilan d'une banque. Et donc, à partir de là, on va pouvoir rentrer dans les sujets que je vous propose d'aborder. Enfin, je continue à vous mettre toujours à côté de vous. à côté ici le bilan de la banque pour éclairer les éléments dont on parle. Alors, les fondamentaux du fonctionnement d'une banque, actif, passif, asset and liability management. De quoi s'agit-il? Ce qui est important, c'est que une banque soit toujours en mesure d'avoir l'argent qu'elle prête. On peut toujours faire des crédits, on peut toujours investir de l'argent dans quoi qu'on veuille, mais il faut l'avoir, cet argent, pour le faire. Et donc, il faut toujours s'assurer que ça fonctionne ici. Alors, capital et réserve, une fois que vous avez votre capital, vous pouvez considérer que ça fonctionne. Ce n'est pas toujours vrai, parce que si vous faites des pertes, elles vont en diminution de votre capital. Et donc, votre capital diminue. Donc, le poste capital n'est pas toujours fixe. Il ne faut pas croire que c'est acquis pour toujours. D'une manière plus positive, vous pouvez vous dire également que lorsque vous faites des bénéfices, vous les intégrez en partie au capital. Et puis, d'une manière plus neutre, quand vous voulez faire une augmentation de capital dans le marché, eh bien, soit le marché est là, soit le marché n'est pas là. Donc, le poste capital, ce n'est pas du tout un poste qui est figé pour l'éternité. Et quand on dit on veut s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour faire du business, ça commence déjà par le capital. Ensuite, les instruments de marché des capitaux. Alors là, ce sont tous les emprunts. Je parle volontairement des emprunts, des instruments de marché des capitaux. Ce sont tous les emprunts qu'une banque émet et que vous achetez quand vous allez au guichet de la Erste Bank et que vous avez 10 000 euros à investir ou 500 euros à investir et vous demandez à votre conseiller de clientèle qu'est-ce que vous me proposez. Alors, en ce moment, ils vont surtout vous proposer des livrets d'épargne, mais ils peuvent vous proposer des emprunts obligataires à 6 mois, à 2 ans, à 10 ans, à 30 ans, émis par Erste Bank ou une autre banque. Et là aussi, la situation des marchés est quelque chose d'extrêmement déterminant. Il y a des situations de marché où une banque ne peut pas lancer des emprunts obligataires. Donc, ce poste-là ne sera pas rempli. Et la conséquence ici, c'est qu'elle ne pourra pas faire de crédit à la clientèle. Si elle ne peut pas remplir cette partie-là, elle ne peut pas remplir cette partie-là non plus, puisqu'on a toujours la même somme en bas des deux côtés, comme vous savez. Dépôt de la clientèle, même chose. En Autriche, lorsque les journaux ont parlé l'année dernière de la nécessité pour certaines banques, ou de la décision plutôt, par certaines banques autrichiennes, de faire appel à l'État autrichien pour augmenter leurs fonds propres, sous certaines structures, beaucoup de gens particuliers qui avaient fait la VO, qui étaient des gens bien éduqués, qui comprenaient les mécanismes financiers, ont eu peur. Et ils ont cru, moi j'en connais en Autriche, des architectes, des gens, pas des gens sans formation, ce sont des si Raiffeisen, si Erste Bank a recours à l'État autrichien, c'est qu'ils vont mal. Et s'ils vont mal, il ne faut surtout pas que nous laissions notre argent en dépôt à Raiffeisen ou à Erste. Puis je peux parler de Hypo Adria, je peux parler de Bavag, etc. Donc là aussi, si ce poste diminue, le total diminue, et donc vous êtes obligé de diminuer l'actif. Et vous ne pouvez pas faire de crédit à la clientèle. OK ? Bon, et puis bénéfice, ça c'est le but même d'une activité d'entreprise. Bien. Donc, il est important que, au-delà de ce que les journaux racontent, que vous sachiez que quand une banque veut prêter de l'argent, il faut qu'elle remplisse la colonne de droite, d'une manière ou d'une autre. Soit en faisant une augmentation de capital, soit en émettant plus de papiers obligataires sur les marchés, soit en s'assurant que les dépôts de la clientèle soient prêts. Sur les dépôts de clientèle, et pour revenir à l'exemple que je donnais, heureusement, il n'y a pas eu que des gens qui ont eu peur l'année dernière. Et il y a eu des gens qui ont pensé exactement le contraire. C'est ce qu'on appelle en mauvais anglais la notion de « flight to quality », c'est-à-dire que des investisseurs particuliers ou institutionnels qui avaient leur argent déposé dans des banques qui leur offraient une rémunération élevée, se sont dit tout d'un coup, attention, la rémunération chez la banque A est élevée, la rémunération chez Erste ou chez Raiffeisen est moins élevée et mon argent est plus sûr si je le mets, même avec un rendement plus faible, chez Raiffeisen ou chez Erste. Et c'est comme ça que certaines des banques autrichiennes, dont la mienne, ont bénéficié de cette notion de flight to quality et que nous avons vu nos dépôts de clientèle augmenter, s'accroître, même si la rémunération que nous versons à nos déposants est inférieure à celle d'établissements bancaires plus risqués. C'est toujours la notion de risk return. Okay? Bon. Tout ça pour dire, le message ici est de dire, quand on reproche aux banques de ne pas prêter de l'argent, c'est bien gentil, mais il faut être sûr que les banques aient les moyens de remplir la colonne de droite. Ce qui n'est pas toujours facile. Cadre réglementaire, fonds propres et distorsion de concurrence. Vous m'interrompez si vous connaissez tout ça, hein, ça ne sert à rien que je vous dise des choses que vous connaissez déjà. Cadre réglementaire, les banques, comme vous le savez, dans l'économie d'un pays, ce sont des entreprises, mais ce ne sont pas des entreprises comme n'importe quelle autre entreprise, parce qu'elles ont un rôle de financement de l'économie d'une part, et deuxièmement de dépôt de la clientèle. Donc elles ont un rôle très particulier dans l'économie d'un pays qu'aucune autre entreprise n'a. Et donc, les responsables politiques ont évidemment, depuis toujours, imposé des règles au fonctionnement d'une banque destinées à prendre en compte ces deux éléments particuliers et à réduire les risques pour éviter la faillite d'une banque et que les déposants ne retrouvent pas leur argent en particulier. Et dans ces conditions, donc, des cadres réglementaires ont été fixés, en particulier au niveau des fonds propres. Alors, les fonds propres, vous savez ce que c'est, hein, c'est capital et réserve. Et alors que dans aucune autre entreprise normale, il n'y a des obligations de minimum de fonds propres, sauf au niveau du droit civil, et dans aucune autre activité d'une entreprise, vous n'avez des obligations de fonds propres liées à l'activité de l'entreprise et au volume et au développement du volume de l'activité de cette entreprise. Dans les banques et dans les assurances, pour des raisons similaires, vous avez des réglementations particulières. Et tout particulièrement, pour me répéter, au niveau des fonds propres, il est imposé aux banques que leur business, en particulier les crédits à la clientèle, soit toujours en relation avec le niveau des fonds propres. Et si vous n'avez pas assez de fonds propres, vous n'avez pas le droit d'augmenter votre crédit à la clientèle. Tout ça pour éviter que les banques ne fassent n'importe quoi, ne fassent des crédits, des crédits, des crédits, et puis tout d'un coup, elles ne peuvent pas les refinancer parce qu'elles n'ont pas assez de fonds propres. Et ce qu'on appelle Basel III, et ce qu'on appellera Basel III, est un cadre réglementaire qui va très clairement, qui traite ce sujet-là. Le problème, et c'est ce que j'appelle distorsion de concurrence, c'est de nouveau qu'une fois de plus, le monde anglo-saxon, et en particulier les États-Unis, alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont américains ou pas, mais je ne dis pas du mal, je dis la réalité. Une fois de plus, les anglo-saxons ont réussi le challenge intellectuel, ont réussi à relever le challenge intellectuel, à imposer quelque chose qu'en France on appelle la pensée unique, ont réussi à imposer une forme de pensée unique américaine au monde ouest-européen, au monde bancaire ouest-européen, en imposant des règles de fonds propres que les banques américaines ne s'imposent pas à elles-mêmes. Et ça, c'est profondément scandaleux. Moi, je l'ai encore vécu dans une opération il y a deux mois. Le groupe Nestlé a lancé une opération de 5 milliards de dollars qui était prise en charge par des banques. Naturellement, c'est une banque américaine, le groupe Citi, qui a été désigné chef de file de cette opération. Comme les règles de fonds propres pour les banques américaines, et en particulier Basel III, ne s'appliquent pas aux banques américaines, eh bien, le montant minimum de fonds propres que Citigroup devait affecter à ces 5 milliards de dollars était inférieur à celui que nous, par exemple, reste bon, inférieur à celui que les banques européennes devaient affecter. Autrement dit, on était obligé de bloquer ici plus d'argent, nous les banques européennes, de bloquer ici plus d'argent que les banques américaines pour développer notre relation avec Nestlé. Et donc, une notion de rentabilité qui est très importante dans toutes les entreprises du monde, bancaires ou non, qui est return on equity, dès lors que nous devions mettre plus d'equity en face de cette opération, dont les conditions financières étaient les mêmes, évidemment, la marge était la même, c'était 4 basis points. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les basis points, mais pour un financement à 2 ans, 4 basis points au mois de janvier cette année, c'est moins que rien. Simplement, Citi avait le droit de mettre moins d'equity en face de cette opération que... Donc, les problèmes de distorsion de concurrence sont des sujets absolument fondamentaux, et quand vous entendez et lisez dans les journaux que toutes les discussions autour de Basel III tournent sur le contenu de Basel III, le niveau de fonds propres à garder en réserve, etc., mais également sur les questions de distorsion de concurrence, c'est de cela qu'il s'agit. De ne pas avoir une fois de plus les Américains qui disent aux Européens, voilà les règles qui s'appliquent, sauf pour nous les Américains. Ça, c'est très important. Actionnaire institutionnel, autre élément du cadre de fonctionnement d'une banque. Il y a encore, dans beaucoup de nos pays, des particuliers qui achètent directement des actions d'entreprises ou de banques. Mais c'est de moins en moins le cas, parce qu'aucun de nous n'a le temps, ni les moyens informatiques, ni les connaissances pour analyser avec sagesse. Oui, pardon. Oui. On peut rentrer dans le détail, c'est très compliqué parce que c'est très différencié par type de risque. Si vous prêtez de l'argent à un emprunteur qui a le fameux AAA, c'est ce qu'on appelle les risk-weighted assets. Si vous prêtez de l'argent à un emprunteur, et c'est le sujet de la Grèce, entre autres le sujet de la Grèce actuellement. Hein. Si vous prêtez de l'argent à un emprunteur qui a le fameux AAA, vous allez devoir, si vous prêtez 100 millions, vous allez devoir mettre par exemple, je sais pas, 10 euros d'equity en face, intellectuellement. Si cet emprunteur, et je vais y revenir quand je vais vous parler de migration tout à l'heure, si cet emprunteur a un rating de BBB, c'est plus 10 euros pour les mêmes montants de 100 millions que vous lui prêtez, c'est plus 10 euros, mais c'est 100 euros, etc. En fonction de la qualité du risque, en fonction de la durée, en fonction de la structure du prêt, de ce qu'on appelle les covenants, donc le contenu juridique, de la qualité juridique du contrat de prêt, etc. Donc, si je commence à vous donner des chiffres, il va falloir que chaque fois que je vous donne des chiffres pour tel type de situation. Mais retenez que l'idée, c'est de dire, on définit la qualité du risque qu'on prend, la qualité compte tenu du contrat de crédit, compte tenu de la durée, compte tenu de la qualité de l'emprunteur, compte tenu éventuellement des garanties qui sont données. Enfin, il y a toute la notion de qualité du risque. Et en face de ça, eh bien, on est obligé de mettre plus ou moins d'écoute intellectuellement. Mais ce n'est pas seulement intellectuel. On est obligé de montrer au régulateur et de démontrer au régulateur qu'on respecte bien ces règles. D'accord ? Actionnaire institutionnel, ce que je veux dire là-dessus, ce qui est important que vous sachiez, c'est que si certes, donc, certains d'entre vous, peut-être, avaient des investissements directs en actions dans votre compte bancaire, dans votre dépôt, la majorité des gens dans le monde ne sont plus en mesure d'analyser eux-mêmes la valeur d'une entreprise, la valeur d'une action, le prix de l'action aujourd'hui par rapport à hier et par rapport peut-être à demain, etc. Et donc, de plus en plus de particuliers investissent leur argent dans des fonds qui eux-mêmes, par le biais de leurs professionnels, investissent à ce moment-là dans les actions de telle ou telle société selon les règles du jeu définies par le fonds. Et donc, vous allez investir votre argent dans un fonds, Top Asia, par exemple, si vous avez envie d'avoir des actions de sociétés japonaises, sud-coréennes, chinoises, etc. Ou bien vous allez investir dans un fonds pas quoi, infrastructures européennes, par exemple, parce que vous croyez qu'il va y avoir beaucoup d'autoroutes qui vont être construites ou beaucoup de chemins de fer, etc. Bon, donc vous avez dans toutes les banques dans le monde entier, vous avez millions de sortes de fonds et à vous de choisir. Ces fonds, ils ont souvent, leurs déposants sont souvent des caisses de retraite. Et les caisses de retraite, comme je vous disais tout à l'heure, sont de plus en plus, avec le vieillissement, l'allongement de la durée de vie des populations, les caisses de retraite sont de plus en plus confrontées au problème de respecter leurs obligations. Quand une caisse de retraite dit à vos parents, ou vous disent déjà vous maintenant, si vous y souscrivez, vous disent, à partir de 65 ans, à considérer qu'on reste en Autriche au départ de l'âge de la retraite de 65 ans. Vous dites à 65 ans, je vous paierai X euros par point que vous avez acquis, si c'est un système de points que vous avez en Autriche, je ne sais pas. Ou bien vous disent, je vous paierai 60% de votre dernière rémunération, par exemple. Bon, quelles que soient les obligations qui sont prises, les caisses de retraite prennent des obligations. Et quand ces obligations doivent être remplies pendant plus longtemps, parce qu'on vit plus longtemps, eh bien les caisses de retraite doivent s'assurer des revenus pour être sûrs de répondre à leurs obligations, pouvoir remplir leurs obligations. Les revenus des caisses de retraite qu'elles vont vous reverser, ce sont les revenus des investissements qu'elles font. Et donc, les caisses de retraite investissent, par exemple, dans des actions bancaires. D'où, et c'est un autre élément des fondamentaux du fonctionnement d'une banque, la pression qui est mise par tous ces actionnaires institutionnels sur le management des grandes entreprises, et en particulier des banques. Et c'est comme ça, pour être sûr d'avoir le rendement qui va leur permettre, à elles, les caisses de retraite, de payer les retraites de leurs membres. Et c'est comme ça que vous avez vu, je dirais depuis 15 ans, des patrons de très grandes entreprises, autrichiennes, françaises, allemandes, britanniques, annoncer publiquement des objectifs de rentabilité qui étaient complètement fous. Et très souvent, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, vous avez vu des grands patrons du DAX, du CAC 40, du ATX, etc. Très souvent, le niveau du coût qu'ils annonçaient était très souvent un niveau de return on equity de 25% avant impôt. Il n'y a pratiquement aucune activité économique dans le monde qui apporte un return on equity de 25% avant impôt. Certainement pas le business bancaire. Et le résultat, c'est que au niveau des banques, beaucoup de banques se sont lancées pour arriver à délivrer ce 25% avant impôt, et du coup pour conserver les caisses de retraite comme actionnaires. C'est important de continuer à avoir des actionnaires, évidemment, sinon votre cours de bourse, il baisse, si tous vos actionnaires vendent vos actions. Donc pour continuer à avoir des actionnaires et les caisses de retraite, ces patrons ont annoncé des objectifs de return on equity de 25% avant impôt, ce qui, dans beaucoup de pays, équivaut à peu près à 15% après impôt. Et pour y arriver, en particulier dans le secteur bancaire, se sont mis à faire des choses qui n'ont plus rien à voir avec le métier de banque. C'est comme ça qu'on va arriver au sujet des subprimes. Alors, ça, c'était quelques points importants sur les éléments et les cadres dans lesquels une banque agit. Que vous compreniez bien et que ça remette un petit peu en place dans vos... Si c'est nécessaire, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Dans vos esprits, tout ce que les journaux racontent comme imbécilité sur ce genre de sujet. Alors, les mécanismes de la crise. D'abord, la faillite de Lehman. Alors, la faillite de Lehman, c'est le sujet « too big to fail ». Comme vous le savez, personne ne s'attendait à ce qu'une banque comme Lehman, qui était une banque gigantesque, en plus une très ancienne maison avec une bonne réputation, puisse faire faillite et que le gouvernement américain ait refusé d'intervenir comme ce qu'on appelle en français « prêteur en dernier ressort ». Et donc le gouvernement américain, pour des raisons idéologiques, alors on souscrit à l'idéologie ou bien on n'y souscrit pas, ça c'est autre chose, mais pour des raisons idéologiques, le gouvernement américain a décidé de laisser Lehman tomber en faillite. Quelle a été la conséquence? Et là, je reviens au bilan et au passif du bilan d'une banque. Quand je mets dépôt de la clientèle, tout le monde peut être un client d'une banque, y compris une autre banque. Une banque est un client d'une autre banque, toujours. Et en particulier, les banques se prêtent tous les jours, quotidiennement, à échéance d'un jour, beaucoup d'argent. Et comme les banques ont confiance entre elles, comme les banques ont confiance dans le système et dans la responsabilité des politiques, responsabilité auxquelles je faisais allusion tout à l'heure en disant les banques ont une place particulière dans l'économie, eh bien, quand les banques se prêtent entre elles à un jour, sur une durée de 24 heures, elles sont persuadées qu'aucune d'entre elles ne peut faire faillite. Or, Lehman, un des plus gros, a fait faillite. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de la faillite de Lehman? C'est que plus aucune banque n'a accepté de prêter au jour le jour à une autre banque. Et tout d'un coup, toute cette partie, une partie importante ici a disparu. Et donc, les banques n'avaient plus le dépôt d'autres banques avec lesquelles elles travaillaient jusqu'ici très bien, elles s'entendaient très bien, et du coup ne pouvaient plus financer les crédits à la clientèle. Alors ça, c'est important que vous sachiez parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé que, et je suis heureux que la personne en question soit un de nos concitoyens, monsieur l'ambassadeur, il se trouve que le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, le président de la Banque Centrale Européenne, pardon, monsieur Trichet, dont vous avez entendu le nom certainement, est français, et qu'en France, à une époque, il a été très critiqué quand il était gouverneur de la Banque de France, avant que ne soit créée la Banque Centrale Européenne, il a été très critiqué par les médias français qui considéraient qu'il était beaucoup trop rigoriste, qu'il était très conservateur, qu'il ne savait faire qu'une chose, c'était lutter contre l'inflation, et qu'il était incapable de faire preuve d'audace et de souplesse et d'énergie. Vous vous souvenez également que lorsque la Banque Centrale Européenne a été créée, nos amis allemands ont très lourdement insisté pour que les statuts de la Banque Centrale Européenne ne prévoient qu'une seule mission. Une seule mission, c'est-à-dire la mission de lutte contre l'inflation. C'est important parce que le modèle qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique, la Fed a deux missions. Elle a une mission de lutte contre l'inflation, mais elle a également la mission de développer la croissance, de soutenir, pardon, la croissance de l'économie. Et lorsque la Banque Centrale Européenne a été créée, les Allemands ont refusé et ont obtenu que leur position soit retenue, ont refusé que cette deuxième mission, soutien à l'économie, soit confiée à la BCE, à la Banque Centrale Européenne. Alors quand Lehman fait faillite, que les banques ne se prêtent plus d'argent entre elles, qu'est-ce qui va aider les banques à continuer à refinancer les crédits qu'elles donnent aux entreprises? Eh bien, ce monsieur Trichet, qu'en France, on traitait d'un peu obtus, a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a eu le courage d'aller un petit peu au-delà, enfin un petit peu, c'était des 1000 milliards d'euros quand même, d'aller un petit peu au-delà de la stricte mission qui était donnée à la BCE. Et il s'est mis du coup à dire... Bon, ben, puisque les banques ne se prêtent plus entre elles, c'est moi qui vais leur prêter. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les banques, qui ne savaient plus quoi faire de leur argent, puisqu'elles ne le prêtaient plus aux autres banques, elles ont prêté l'argent à M. Trichet. Là, elles avaient confiance. Elles se sont dit, la Banque Centrale Européenne, pas de problème de confiance, c'est solide. Donc, elles ont prêté l'argent à M. Trichet. Et M. Trichet, lui, a été très courageux et il l'a reprêté aux autres banques. Donc, il y a une chose qui a été exceptionnelle dans cette crise à la suite de Lehman, et ça a duré pendant 18 mois, ça a été le soutien gigantesque et immédiat apporté par la Banque Centrale Européenne au fonctionnement interbancaire. Je crois que c'est très important que vous le sachiez, parce que souvent, bon, en France maintenant, les critiques vis-à-vis de M. Trichet se sont tues, heureusement, mais malgré tout, il y a encore beaucoup de gens qui considèrent que la BCE ne soutient pas assez l'économie. Et on peut parler de son attitude actuelle sur la Grèce, si ça vous intéresse, tout à l'heure. Donc ça, c'est un des mécanismes de la crise, ça a été ce à quoi Lehman a conduit. Alors, le sujet de la titrisation, je ne sais pas si vous savez faire brief home, securitization, etc. Avant l'histoire Lehman, il y avait l'histoire subprime. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, si vous savez ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens au cadre réglementaire des banques ici et du lien imposé aux banques entre le niveau de leurs fonds propres et leur volume d'activité. En période de croissance, et on a eu de la croissance très forte en Europe et aux États-Unis ces dernières années, jusqu'à la crise, les banques prêtaient, finançaient l'économie. Plus en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, l'économie est plus fondée sur les marchés des capitaux et sur les financements par les marchés des capitaux que sur les financements par les banques. Et malgré tout, aux États-Unis également, les banques ont financé. Donc, ce poste-là, il grandissait. Le problème, c'est que celui-là ne grandissait pas. Or, comme je vous ai dit, il y a des règles qui imposent un lien entre ce poste-là et ce poste-là, un ratio comme on l'indiquait tout à l'heure. Alors, la solution qui a été mise au point depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle securitization, Fabrifonds, etc., c'est de dire, je fais des crédits à la clientèle, mais une fois que j'ai fait le crédit à la clientèle, moi, banque, je le vends, ce crédit. Et donc, j'ai augmenté ce poste en faisant des crédits, et puis je réduis ce poste en le revendant, et du coup, mon ratio entre là et là, il continue à être respecté. Alors, les opérations de securitization, c'est ça, c'est la vente des actifs. Il n'y a pas que les banques qui font ça. Toutes vos factures d'électricité, toutes vos factures de gaz, qui sont des revenus réguliers, sont souvent vendues par des opérations de ce type, par Verbund, puisque vous parliez de Verbund tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, ou par les entreprises de gaz, pour alléger leur bilan et pour consommer donc moins de fonds propres. Bien. Alors, toutes ces opérations de titrisation, en particulier aux États-Unis, ont été faites par des banques qui ont vendu en grande partie leurs crédits, leurs créances immobilières. Tous les particuliers qui empruntaient auprès de leur banque pour acheter une maison. Et vous savez que le taux d'épargne aux États-Unis est l'un des plus faibles du monde depuis toujours. Ils ne vivent qu'à crédit les Américains parce que ce sont des gens qui pensent très positivement, qui ont toujours croyance dans l'avenir, qui se disent que l'avenir apportera toujours une solution à leur endettement. Donc, les particuliers n'avaient aucune réserve financière, le taux d'épargne était nul. Ils étaient très endettés, en particulier en matière d'immobilier, mais également pour acheter leur vélo, leur aspirateur ou je ne sais quoi. Les banques avaient donc tous ces crédits dans leur bilan, et par des opérations de securitization, les ont revendus dans le marché des capitaux. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne savait plus qui était le propriétaire. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne savait plus qui avait acheté ces opérations de securitization. Ça n'était plus dans le bilan des banques. Quand c'est dans le bilan d'une banque, on sait où c'est. On connaît la banque, on voit les chiffres qu'elle a. Quand vous l'avez vendu dans le marché à des investisseurs, vous ne savez plus qui est le propriétaire. Et quand tout d'un coup, ça c'est la seconde raison, il s'avère que la qualité de ces crédits immobiliers est devenue très mauvaise, eh bien, vous avez dans le monde entier des gens, des investisseurs institutionnels qui sont les propriétaires de ces crédits et qui doivent les dévaloriser pour tenir compte de la baisse de valeur. Et c'est pour ça que l'histoire subprime a pris tellement de temps. C'est qu'on ne savait pas où étaient les centaines et les milliers de milliards qui avaient été vendus par les banques. On ne savait pas si c'était chez des investisseurs autrichiens, des investisseurs français, des investisseurs chinois, et c'était partout dans le monde. C'est pour ça que ça a pris tellement de temps, et d'ailleurs, les choses ne sont pas finies, c'est pour ça que ça a pris tellement de temps à ce que ces opérations de subprime soient apurées dans les comptes des investisseurs. Et puis alors, les mécanismes de la crise, donc, évidemment, compte tenu des enjeux dont je viens de vous parler, conduisent à des nouvelles règles prudentielles, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure en évoquant Basel III. Alors, maintenant, je ne sais plus sur lequel il faut appuyer. Attends, je vais faire comme ça. Bon. Je ne sais plus lequel c'est. Attends. Non, excusez-moi. Voilà. Alors maintenant, on va parler de sujets un peu moins techniques et un peu plus people, si ça vous va. L'image des banques et les enjeux actuels. Dans les Vous êtes étudiant, vous êtes habitué à regarder des statistiques ou des études publiées sur l'attractivité de tel ou tel secteur économique auprès de vous. Quel est l'employeur, qui est le plus attractif? C'est fait souvent en Autriche, c'est fait souvent en Allemagne pour des élèves terminant leurs études. Alors en Autriche, OMVO, Erste Bank, Verbund, j'en sais rien moi, Red Bull et compagnie. Souvent, le secteur de l'assurance a très mauvaise réputation auprès des jeunes étudiants. Et souvent, on voit bien les résultats de ces enquêtes et sont que vous êtes tous attirés par l'automobile, le luxe, la banque, je ne sais quoi, mais l'assurance, ça arrive souvent en très dernière position dans ces sondages, dans ces enquêtes. Eh bien maintenant, il y a quelqu'un qui fait encore moins bien que le secteur de l'assurance, c'est le secteur bancaire. À la suite de tout ce qui a été écrit, de tout ce qui a été dit, dans le contexte de la crise, et c'est le résultat des études qui sont publiées. Alors, quels sont les véritables enjeux? Parce que ce sont des questions d'image, il faut quand même regarder les choses un peu plus près. D'abord, sur le financement de l'économie, on tape souvent sur les banques en leur disant « elles ne prêtent plus ». Elles ne prêtent qu'aux grandes entreprises, et donc il n'y a pas de risque à prêter à OMFA, mais par contre, elles ne prêtent plus à l'entreprise moyenne, au Mittelstand du fin fond d'Oberösterreich, elle le prête encore moins aux artisans. Et puis, elle ne vous prête pas à vous, les étudiants, quand vous voulez acheter un appartement, je ne sais pas. Il y a deux éléments à prendre en considération sur ce sujet. Le premier, c'est encore une fois ce ratio. Une banque, je le rappelle, ne peut prêter qu'un multiple de ses fonds propres. Donc, si elle a un niveau de fonds propres donné et qu'elle ne peut pas faire de securitization, qu'elle ne peut pas vendre, parce que maintenant le marché est mort, bien sûr, elle ne peut pas vendre les crédits à la clientèle, comme ce poste-là est fixe, elle ne peut pas augmenter celui-là. Deuxièmement, pour rebondir sur un élément de ma réponse tout à l'heure, je vous disais que le montant de fonds propres qu'il faut affecter au crédit dépend de la qualité du risque, de la qualité de votre emprunteur. Or, la crise a plusieurs conséquences. L'une de ces conséquences, c'est que chaque emprunteur a vu la qualité de risque qu'il représente diminuer. OMVO n'a plus aujourd'hui le rating qu'il avait il y a 2 ans et demi. Et donc, quand moi je prête 100 millions à OMVO, alors qu'il y a 2 ans et demi, je devais mettre seulement 10 euros en face des 100 millions que je lui prêtais, eh bien maintenant, le même OMVO, pour les mêmes 100 millions, ce n'est plus 10 euros que je dois mettre en face, au niveau de mes fonds propres, que je dois réserver, mais c'est 50. Donc, c'est ce qu'on appelle la migration en anglais, c'est-à-dire que pour le même crédit, le même montant, la même durée, le même emprunteur, nous sommes, donc sans aucun changement, les banques sont obligées d'affecter plus de fonds propres que c'était le cas avant la crise. Donc, dans ces conditions, dès lors que les marchés actions empêchent de faire des augmentations de capital, que votre capital est plus consommé qu'avant la crise pour les clients déjà existants, comment voulez-vous faire pour augmenter ce poste tout en respectant le ratio ici? C'est pas possible. Mathématiquement, ça tient, c'est pas possible. C'est un jeu à somme nulle, comme on dit en français, c'est pas possible. Donc, les banques ont, même sans changer les règles, c'est-à-dire même en restant dans le cadre de Basel II, ont déjà un problème, elles ne peuvent pas accroître les montants des encours de crédit. Et puis vous rajoutez un élément supplémentaire qui est Basel III, qui va être encore plus contraignant ici, et donc vous voyez que si Basel III se met en place sur la base des propositions qui sont actuellement sur la table de négociation, ça c'est le principal argument des banques. Si c'est le cas, on peut oublier la croissance des crédits à l'économie. Ce n'est mathématiquement pas possible. Tout simplement pas possible. Sauf à revenir dans cette direction-là, c'est-à-dire la securitization, sauf à repermettre aux banques de vendre leurs crédits, mais là, les marchés sont fermés à la suite de subprime. Pour le moment, aucune banque ne peut le faire, même si elle veut le faire. Donc on est dans un cercle vicieux, et ce cercle devient encore plus vicieux si Basel III est mis en place dans toute sa rigueur, dans toute sa sévérité, telle que c'est prévu actuellement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas Basel III. Naturellement, Basel II a montré ses insuffisances. Donc, naturellement, il y a des choses à faire. Il faut simplement savoir que ce qui est actuellement proposé par les autorités prudentielles rendra l'accroissement des crédits donnés par les banques à nos économies impossible. Alors, comme ça, je vous ai déjà parlé de Basel II. Rémunération. Alors, sujet des rémunérations, il est très facile. Il est très facile, c'est-à-dire qu'il est scandaleux. Les niveaux de rémunération de personnes qui sont salariées atteints dans certaines banques sont proprement scandaleux. Ils sont scandaleux humainement, ils sont scandaleux socialement, et ils sont scandaleux en termes d'intelligence ou de bêtises d'ailleurs. Donc, là-dessus, c'est facile de le dire. Ce qui est plus compliqué, c'est que, de nouveau, les Américains, là-dessus, ne comprennent rien. Et ils ont recommencé à payer des centaines de milliards de bonus, au titre de l'année 2009. Quand je dis les Américains, c'est également le cas de certaines banques à Londres. Le chiffre est sorti l'autre jour. Le patron d'une grande banque britannique qui a été nationalisée parce qu'elle faisait faillite a quand même eu 56 millions de livres sterling de bonus de rémunération pour l'année 2009. Donc, ce sont des choses qui sont moralement inacceptables, qui ne correspondent en rien à la qualité de la prestation fournie. Et si seulement les employeurs pouvaient, d'une certaine manière, trouver des accords pour ne plus arriver à ce genre de rémunération, ce serait très simple. Le problème supplémentaire, c'est que quand on voit de tels excès, évidemment, tous les médias, tous les journaux, toutes les télévisions, toutes les radios s'en emparent. Et en parlent, et en parlent, et en parlent. Et en faisant cela, ça met pression sur les politiques. Parce que les politiques n'ont pas d'autre choix que d'agir quand ils voient que nous tous, les électeurs, et les politiques vivent de notre bulletin de vote, les électeurs sont furieux de voir des niveaux de rémunération aussi fous. Et donc les politiques, du coup, doivent agir. Ils sont mis, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et c'est comme ça qu'au niveau de Basel III, on arrive à une pression mise sur les politiques, mise par les politiques, pardon, sur les régulateurs, pour sortir quelque chose de contraignant au niveau des bonus également, au niveau des rémunérations également. Mais les politiques sont dans un problème de ciseaux, c'est-à-dire que si les questions prudentielles sont trop précises sur la rémunération, qui sait également comment les banques vont se comporter en termes de crédit à la clientèle. Et les politiques donc essayent de trouver un équilibre entre être contraignant sur les rémunérations et moins contraignant sur les fonds propres, et c'est un exercice très difficile. Alors, les banques autrichiennes. Les banques autrichiennes, il y a deux groupes de banques autrichiennes pour faire ça. Il y a celles qui ont été mal gérées et celles qui ont été bien gérées. Par charité chrétienne, je ne donnerai pas de nom, mais vous me permettrez de penser que Erste Bank est bien gérée. Après la chute du mur de Berlin, les banques autrichiennes, et pas seulement les banques, mais les entreprises autrichiennes, ont été des partenaires naturels des pays de l'Est de l'Autriche, au moment où tous ces pays ont fait des privatisations. Et donc, les banques, comme d'autres secteurs de l'économie, ont été les premiers à acheter les banques tchèques, les banques roumaines, les banques serbes, les banques ukrainiennes, etc. Bien. Alors, c'est vrai que du coup, les banques autrichiennes ont une partie très importante de leur business de leur allocation de fonds propres qui sont dans ces pays-là. C'est incontestable. Simplement, ce qu'on oublie de dire quand les journaux disent « Oh là là, attention, les banques autrichiennes sont complètement fragilisées parce que la crise a atteint les pays de l'Est, etc. » Ce qu'on oublie de dire, c'est que tous ces pays-là sont membres de l'Union européenne, à part l'Ukraine. Et on vient de le voir avec la Grèce, la solidarité dans l'Union européenne, ça existe. Donc, quand on dit, quand on est assis derrière son bureau à New York ou à Los Angeles, et qu'on écrit, et qu'on a mis le feu au monde entier, avec la crise des subprimes, avec Lehman, et qu'on se dit, oh là là, c'est pas possible que seulement les États-Unis aient tort. Donc il faut trouver d'autres victimes dans le monde. Et du coup, on attaque les banques autrichiennes en disant, les banques autrichiennes ont une exposition irréaliste, ont un engagement irréaliste et démesuré vis-à-vis de l'Europe centrale et de l'Est. Alors, le résultat, en tout cas, c'est que les banques autrichiennes bien gérées n'ont pas été en faillite, font des profits qui sont les plus élevés de leur histoire, ont des niveaux de fonds propres tout à fait raisonnables et sont bien armées pour faire face aux futures contraintes de Basel III. Pour vous donner un ou deux chiffres sur le sujet, pas sur le sujet de votre question, mais au niveau des chiffres, la capitalisation boursière, vous savez ce que c'est que la capitalisation boursière? La valeur en bourse de Erste Bank actuellement, c'est 13 milliards d'euros. Malgré les problèmes d'hier et d'avant-hier à la suite de la Grèce et qui se sont passés autour de l'Espagne, 13 milliards d'euros, c'est la plus grosse valeur en bourse de la bourse de Vienne. La deuxième plus grosse, et très loin, c'est OMV, puisque OMV est à 8 milliards d'euros, donc ça c'est quand même très loin. Et la troisième capitalisation boursière, c'est Raiffeisen, qui est à moins de la moitié, qui est à 5 milliards et demi de Erste Bank. Donc pour vous donner quelques ordres de grandeur des capitalisations boursières actuellement. Donc, chez Erste, on se sent très bien outillé pour faire une augmentation de capital, puisque visiblement le marché apprécie notre business model, si Basel III nous impose d'augmenter notre propre. Alors, j'ai commencé par ce point-là. Sur celui-là, ce qui est important de dire, c'est que les mêmes analystes anglo-saxons, les mêmes journalistes anglo-saxons ont raconté l'année dernière des imbécilités absolues, socialement et politiquement irresponsables. Socialement et politiquement irresponsables. Il y va du chômage des gens, quand même, il faut le savoir. On racontait des choses pas du tout bien recherchées sur l'état des économies de nos pays à l'Est. Je vous donne un exemple. On a beaucoup parlé dans cette crise de communication de l'année dernière. On a beaucoup parlé du rapport entre l'endettement en devises étrangères de ces pays et les réserves en devises étrangères de ces pays. Le ratio entre endettement en devises étrangères, puisque à part la Slovénie et la Slovaquie, aucun n'est membre de l'euro, la notion de devises étrangères a une grande importance pour ces pays-là. Bon, tout le monde disait, le rapport entre l'endettement en devises étrangères au numérateur et les réserves en devises étrangères au dénominateur est épouvantable, c'est scandaleux, ces pays vont faire faillite, etc. Et pour prendre l'exemple d'un pays dont l'économie est quand même plutôt solide, la République tchèque, même le Fonds monétaire international, le IMF, dont le patron actuel est M. Strauss-Kahn, qui est un organisme important, eh bien ce ratio-là publié par l'IMF, par exemple sur la République tchèque, a été, ce qui a été publié l'année dernière au mois de mars, de 290%. C'est-à-dire que l'IMF considérait que l'endettement en devises étrangères de la République tchèque était pratiquement trois fois supérieur aux réserves en devises étrangères de la République tchèque, ce qui est évidemment considérable. Le problème, c'est que c'était faux. Et trois mois après, à l'occasion d'un passage à Vienne, M. Strauss-Kahn s'est excusé publiquement. Et il a dit, mes services se sont trompés. Le rapport n'est pas 290%, mais 0,90%. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant ces trois mois, la couronne tchèque s'est complètement cassée la figure partout. Le chômage en République tchèque a augmenté. Les fameux FDIs, les investissements faits par des entreprises dans ces pays-là, des investissements solide, acheter des entreprises, créer des entreprises, créer des emplois. Tout ça s'était stoppé. Donc, que des choses comme ça soient publiées et qu'il y ait des erreurs, c'est horrible. C'est horrible pour l'économie d'un pays, c'est horrible pour les chômeurs ou les futurs chômeurs de ces pays-là. C'est politiquement et scandaleusement irresponsable. Il y en a d'autres qui ont fait très fort dans le même sens. Un journal que vous lisez certainement tous, qui est normalement un sérieux, The Economist. The Economist n'a pas arrêté pendant cette période de dire ce que je vous rappelais. Donc, ces pays-là sont très endettés, ils n'ont aucune chance, etc. Un an après, donc au début de cette année-ci, 2010, The Economist aussi s'est excusé dans un article. Et a dit, on s'est trompé. Et nous, à l'AIST, Andreas Streichel, il y a deux mois, Andreas Streichel a invité 50 journalistes au siège de la banque, a invité 50 journalistes londoniens, autrichiens, slovaques, ukrainiens. Ils étaient tous là. Il leur a dit, messieurs, voilà ce que vous avez écrit il y a un an. Voilà ce que vous avez dit il y a un an. Montrez-moi une seule chose qui se soit réalisée. Tout avait été faux. Et il leur a dit. Il leur a dit, vous avez tous tout faux. Pendant un an, vous avez écrit des choses horribles sur ces pays-là, avec les conséquences sur le chômage, avec les conséquences sur la visibilité de ces pays, vous avez tous tout faux. Donc, quand vous avez peut-être un peu observé mes remarques sur les médias, c'est, on a le droit de se tromper. Mais on n'a pas le droit de se tromper si on a mal fait son travail de recherche, et encore moins quand il s'agit de telles conséquences sur le chômage. On n'a pas le droit. By the way, nous, nos prévisions actuellement pour les économies des pays voisins, l'évolution, c'est qu'on a vu la crise atteindre ces pays-là plus tard que l'Europe de l'Ouest, mais d'une façon plus forte, mais que nous pensons que ces pays-là vont rebondir très fortement dès cette année, et plus fortement que la zone euro. Et donc, nous prévoyons un taux de croissance positif pour toutes ces économies, sauf la Croatie, pour laquelle nous prévoyons encore une décroissance, enfin une évolution négative du produit national. Bon, alors je termine sur la partie plus soft factor, si je peux dire. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse de rentrer un jour dans une banque. Je crois que, moi ce qui m'a attiré, j'ai fait toute ma carrière dans une banque. J'ai été pendant les 5 premières années de ma vie, j'ai travaillé dans une banque familiale en France. Après, j'ai rejoint la Deutsche Bank, où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à Paris, à Francfort, à Londres. Et plus de la moitié, j'étais le directeur général de la Deutsche Bank en France. Et puis après, j'ai rejoint la Société Générale, où j'étais le patron des activités pour l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse allemande. Et puis à la fin de ma carrière, donc, j'ai un ami qui est arrivé au directoire de Erste Bank et qui m'a appelé en me disant que il serait content si je pouvais venir lui donner un coup de main et l'aider à venir à Erste Bank. Donc c'est comme ça que je suis arrivé. Moi, ce qui m'a toujours plu dans les métiers de banquier, que ce soit des très grandes banques, Deutsche Société Générale, petite banque familiale, ma première banque, ou une banque moyenne comme Erste, c'est la diversité des métiers qu'on peut y faire. Si vous vous sentez attiré par les contacts clientèle, il y a tout ce que vous voulez dans une banque, que ce soit la clientèle de particuliers, la clientèle d'entreprise, etc. Si vous vous sentez attiré plutôt par des métiers d'études, de recherche, dans une banque, vous avez toujours ça aussi. Si vous vous sentez attiré par des métiers d'informatique, dans une banque, rien ne fonctionne s'il n'y a pas d'informatique. Si vous vous sentez attiré par des métiers de relations humaines, personnel, abteilung, etc., évidemment, il y en a. Donc, vous avez une diversité, déjà dans la nature des métiers, et puis vous avez évidemment une grande diversité géographique. Chez Erste, vous pouvez travailler à Vienne, vous pouvez travailler à Varsovie, vous pouvez travailler à Kiev, vous pouvez travailler à Bucarest, etc. Alors, le professeur Stegu m'avait demandé de parler moi. Bon, je viens de le faire. Ce que je peux peut-être vous dire, c'est ce que je fais actuellement. Donc l'idée était de dire, il n'y a pas que la Erste Bank, il n'y a pas que Raiffeisen qui est allé acheter en Slovaquie, en Hongrie, etc., dans tous ces pays-là, après la chute du mur. Il y a beaucoup d'autres entreprises du monde entier, des entreprises américaines, des entreprises de Corée du Sud, des entreprises françaises, scandinaves, etc. Et donc, tout d'un coup, le centre de décision des entreprises slovaques, hongroises, tchèques, n'a plus été en Slovaquie, en Hongrie ou en République tchèque, mais a été en Corée du Sud, à Paris, à Moscou, à New York, etc. Et donc, l'idée a été de dire, voilà, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui puisse créer et développer les contacts avec les directions générales de General Electric, de Mercedes, de Nokia, de je ne sais quoi. Et donc, c'est ça mon boulot. Donc, je voyage tout le temps, je suis tout le temps dans le monde entier pour aller voir les directions générales de tous ces grands groupes qui sont déjà investis dans la région et leur dire, bah, écoutez, il y a une banque que vous ne connaissez probablement pas, mais qui est quand même la première banque dans cette région. Et si vous avez besoin de services bancaires pour votre personnel, pour vos financements, pour le marché des capitaux, pour les paiements, pour tout ce qu'on fait, eh bien, pensez à Erste. Donc voilà, c'est ça ce que je fais. Alors, je suis conseil du commerce extérieur de la France, donc l'ambassadeur en a parlé. Je suis par ailleurs membre du conseil d'administration de la chambre de commerce franco-allemande. Ça résulte de mes activités antérieures. Et puis, vous parliez du plurilinguisme et du multiculturalisme. Professeur Stegu, je préside une fondation européenne qui s'occupe de plurilinguisme et de multiculturalisme en âge scolaire et en âge universitaire. Et j'essaie de convaincre le gouvernement fédéral autrichien d'avancer dans cette direction compte tenu de l'emplacement géographique particulier et de l'histoire autrichienne. Mais pour le moment, je n'ai pas beaucoup de succès. Donc, voilà, je crois que c'est ce que j'avais à vous dire. J'ai parlé pendant longtemps. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Il fait assez chaud. Et si vous avez des questions, on peut y aborder, mais il est peut-être tard pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci encore d'être venus si nombreux. Ça fait plaisir quand les gens viennent volontairement. Ça fait plaisir d'avoir vous.
Tour d'horizon énorme et passionnant à la fois. Je sais que nous, on est tous un peu fatigués, mais il y a aussi Madame Schwarz-Frommel. Mais on va quand même permettre ici, monsieur, quelques questions pour voir un peu.
Pas d'obligation. Hein.
Non, ben, bon, alors ça va durer juste encore 2 ou 3 heures. Non. Non, mais donc 5-10 minutes, et ceux qui doivent absolument s'en aller peuvent s'en aller très discrètement. Mais il faut que je vous dise après que vous preniez la parole, parce que maintenant je veux inaugurer une discussion, personne ne dit rien.
Il n'y a pas d'obligation, toujours.
Vous devez faire semblant d'avoir compris quelque chose. Non, bon, allez-y.
Vous pouvez parler plus fort, j'entends pas bien. La décision sur Lehman s'est avérée être un danger. Hypo Adria est un danger. Quel est le résultat de Hypo Adria? C'est le résultat contraire de Lehman. Lehman, on les a laissés tomber. Hypo Adria a été nationalisé. Lehman, ils allaient mal à cause du subprime. Hypo Adria allait mal à cause d'un mauvais management. Et moi, ça fait seulement 2 ans et demi que je suis ici. J'ai oublié de vous dire que j'ai travaillé à l'ambassade de France à Vienne il y a une trentaine d'années, mais ça, c'est autre chose. Il y a 2 ans et demi que je suis de retour à Vienne, ce qui fait que je ne connais pas bien l'histoire de Hypo Alpe Adria. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça fait longtemps, très longtemps, que Hypo Alpe Adria récupérait tous les crédits et faisait tous les crédits que les autres banques ne voulaient pas faire. Que Erste ne voulait pas faire, que Raiffeisen ne voulait pas faire, etc. Et Hippo Appelleria, donc, simplement pour faire du business, pour croître, pour exister, accessoirement pour payer des rémunérations très élevées à ses dirigeants, s'est mise à faire du business que personne d'autre ne voulait faire. C'est quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, Hippo Appelleria a été mal géré. Et c'est devenu un danger parce que les gens qui avaient déposé leur argent chez Hippo Appelleria, si ça avait été la même décision que pour Lehman, ils n'auraient pas récupéré leur dépôt. Ils n'auraient pas récupéré leur argent. Donc une banque peut être un danger, bien sûr. Et la décision qui a été prise sur Hippo Appelleria était le contraire de celle qui a été prise sur Lehman, puisque l'État autrichien a nationalisé Hippo Appelleria, et du coup, les déposants n'ont pas perdu un centime. Mais bien sûr qu'une banque peut être un danger. Et c'est pour ça qu'il y a ces règles, ce qu'on appelle les règles prudentielles, les obligations d'avoir une relation en particulier entre ces deux choses, entre ces deux postes-là. Entre autres, il y a beaucoup d'autres ratios qu'il faut respecter, hein, mais je prends les plus faciles. C'est pour cette raison-là. On ne peut pas... Quand l'expression anglaise dit « too big to fail », la notion, c'est évidemment la notion de « too big ». Mais il faudrait compléter, il faudrait dire « too big a bank to fail ». Parce que si une entreprise industrielle fait faillite, ce n'est pas la même chose que si une banque fait faillite. Parce qu'une entreprise industrielle, elle n'a pas ça. Elle n'a pas ce poste-là. Et donc, si vous avez 5 000 euros déposés chez Hippo Appelleria ou chez Lehman, si vous aviez 5 000 euros déposés chez Lehman, vos 5 000 euros, ils sont fichus. Vous ne les revoyez plus. Donc oui, une banque peut être un danger, bien sûr. Bien sûr.
Encore d'autres, oui. Oui. Notre meilleur élève, Madame Petre, voilà.
Oui, je crois que ce qui nous intéresse tous, c'est la régulation et le bras de fer qui est engagé actuellement, par exemple, entre Obama et la SEC et Goldman Sachs. On abandonne peut-être le terrain franco-autrichien. Mais enfin, la question de la régulation, c'est la question absolument actuelle.
Oui.
Alors, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous croyez qu'on va vraiment réussir à modifier et à rendre un petit peu plus stricte la régulation? Et puis, si vous avez le temps, encore une deuxième question accessoire, est-ce que la Erste est très exposée au risque grec?
Donc, c'est la plus facile, ça. Alors, sur la première question, il faut préciser que le contexte américain, dans l'industrie bancaire aux États-Unis, non seulement il y a donc cette distorsion de concurrence par rapport au monde bancaire européen, mais en plus, ils ont, il y a 5 ou 6 ans, j'ai oublié exactement quand, aboli une loi qu'on appelait le Glass-Steagall Act, comme vous savez. Et le Glass-Steagall Act était une loi des États-Unis qui interdisait d'avoir dans une même banque aussi bien les activités de banque commerciale que les activités de investment banking. Et donc, cette loi a été supprimée. Et donc, on a vu des gens comme Goldman Sachs se mettre à faire de l'investment banking et du commercial banking et du commercial banking et de l'investment banking, tout ça joyeusement mélangé, comptablement pas très bien, volontairement assez vague. Alors, le bras de fer avec M. Obama et son conseiller, l'ancien président de la Federal Reserve Bank, du Federal Reserve Board, pardon, et que, d'une certaine manière, Obama essaye de réintroduire cette séparation. Il y a le sujet Basel III, d'une part, et la distorsion de concurrence avec le reste du monde. Ça, c'est déjà un premier sujet. Et puis, il y a un sujet propre aux États-Unis, qui est celui de, éventuellement, reséparer l'investment banking du commercial banking. Alors, moi, je ne suis pas américain, je suis bien incapable de vous dire quel sera le résultat. Je suis bien incapable. Moi, j'ai été très, sur un sujet complètement différent, et là, je parle comme citoyen, c'est tout, j'ai été très sidéré de voir que ce même peuple américain qui avait été capable d'élire un citoyen noir comme son président, et qui avait fait quelque chose de gigantesque, absolument magnifique, ce même peuple américain refusait de mettre en place des Krankenkassen pour 35 millions d'habitants. Ça, moi, je ne comprends pas comment on peut être aussi généreux d'un côté et aussi injuste de l'autre. Donc, cette difficulté que j'ai à comprendre, cette combinaison d'éléments, m'amène également à dire que je ne sais pas quel va être le résultat des négociations sur la partie purement américaine de votre question. Alors, il faut, comme je disais, il faut Basel II, pour autant que la régulation soit appliquée à toutes les banques, y compris les banques américaines. Basel II a montré certaines insuffisances. Donc, oui, il faut arriver à une régulation plus stricte. Simplement, l'enjeu, c'est de savoir où mettre la barre, où mettre le curseur, comme on dit en français. Si la nouvelle régulation est trop stricte, ici, c'est fini. Ici, c'est fini, et le financement de l'économie, c'est fini. Et quand vous entendez les présidents de banques parler de cela dans les journaux, ce n'est pas pour le plaisir de sauver leur peau. C'est vrai. Je vous ai expliqué ce qui se passe déjà avec le phénomène de migration, etc. Donc, vous n'avez plus de place. Et peut-être c'est un chiffre dans la direction de la question que vous posiez tout à l'heure. L'état actuel des propositions de Basel III en termes d'augmentation des fonds propres pour l'ensemble des banques du monde, qui résulterait des nouvelles règles, c'est 221 milliards de dollars en fonds propres, purement en equity. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que toutes les banques du monde réunies fassent des augmentations de capital pour un montant global de 221 milliards de dollars, ce qui ne s'est jamais produit, aucune place financière, que ce soit la bourse de Vienne, la bourse de Paris, la bourse de Francfort, la bourse de Londres, la bourse de New York, aucune d'entre elles, toutes réunies, n'a jamais donné sur une période de temps aussi brève, là on parle de 3 ans, n'a jamais donné dans toute l'histoire des bourses, n'a jamais produit un montant total d'augmentation de capital, donc le fonds propre, de 221 milliards de dollars. C'est impossible, ça ne s'est jamais fait, c'est totalement démesuré. Donc, oui, il faut trouver quelque chose de plus contraignant, mais il faut, et c'est tout l'objet des négociations actuellement, il faut trouver quelque chose qui donne plus de sécurité, mais en même temps permette le financement de l'économie. Et c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est très, très difficile. Mais là où les journaux font mal leur travail, c'est que les journaux présentent ça d'une manière polémique, en disant, voilà, ce sont les banques qui veulent encore prêter de l'argent simplement aux gens qui ont les meilleurs ratings, ne veulent prendre aucun risque, etc. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On parle d'enjeux qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants. Et je ne sais pas qui va l'emporter dans les négociations. Est-ce que c'est la raison qui va l'emporter? Est-ce que ce sont les intérêts égoïstes? Je n'en sais rien, je suis incapable de vous le dire. Moi, je ne fais pas partie des équipes de la Erste Bank qui négocie et je suis bien content. Alors, sur la Grèce, nous n'avons pas d'exposition sur la Grèce. La Erste, attendez, on peut peut-être avancer. Alors, j'avais décidé de ne pas faire de publicité pour Erste Bank, mais je vous ai quand même... Attendez. Bon, d'abord, voilà la structure du capital de la Erste Bank actuellement. Hein, voilà l'origine géographique des actionnaires. Et puis, voilà les types des actionnaires. Donc, vous voyez, vous avez les investisseurs institutionnels qui font pratiquement la moitié. La Erste Bank Stiftung qui fait 20%, 28%. Notre partenaire espagnol, 10%. Puis les employés, les Sparkasse, Oberösterreich, enfin dans le Verbund des Sparkasse. Et puis quelques clients particuliers qui achètent quand même les actions en direct. Bon. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Et voilà nos ratings. Donc on a d'excellents ratings. Ça, c'est, vous connaissez les 3 agences de ratings, Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Les plus connues sont ces deux-là, bien sûr. Et nous avons donc, en particulier au niveau du long terme, nous avons d'excellents ratings. Pour vous donner une comparaison, notre rating long terme chez Moody's, c'est le même que celui de la Deutsche Bank. La Deutsche Bank a le même rating que nous, alors qu'elle est 10 fois, 15 fois plus grande que nous. Pour vous donner une situation comparable. Vous l'aurez, hein, je vous l'enverrai. Vous l'aurez. Malgré tout, donc on est une banque très solide, très ancienne, créée en 1819, etc. Mais malgré tout, nous ne sommes qu'une banque régionale. Notre marché domestique, c'est une zone qui va de l'Autriche à l'ouest, à l'Ukraine à l'est, la Pologne pour certaines opérations au nord, jusqu'à la Roumanie, la Serbie et la Croatie au sud. Nous sommes une banque régionale. Nous ne sommes pas une petite banque, nous ne sommes pas une grande banque, nous sommes une banque moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire quand on revient à la question des fonds propres? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'on doit gérer chaque centime de nos fonds propres comme un père de famille ou une mère de famille. Et donc, ce que nous faisons, c'est uniquement du business de clientèle et nous ne le faisons que dans les pays dans lesquels nous sommes actifs. Donc, nous n'étions pas engagés dans le subprime, nous n'avions pas acheté ces produits qu'il a fallu dévaloriser. Nous ne sommes pas en Grèce, etc., etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Une dernière question, peut-être?
Est-ce que vous voyez que la possibilité de re-securitisation va être encore possible sous face de ça?
Elle peut en être la conséquence. C'est-à-dire que si Basel Dry, si Basel Dry est, n'est pas assez intelligent et est trop contraignant, il faut encore une fois, d'accord, toutes les banques sont d'accord pour que Basel Dry soit plus contraignant que Basel Dry. Hein, il ne faut pas raconter l'histoire. Mais si le curseur est mis trop haut, si c'est trop contraignant, le seul moyen qu'on connaisse actuellement, c'est soit de faire des augmentations de capital, et là je vous ai cité le chiffre de 221 milliards qui est irréaliste. Bien. Donc si les augmentations de capital ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce sont les États qui prêtent de l'argent aux banques en tant que fonds propres? Ils ne peuvent plus, les États sont endettés jusqu'à là, les États ne le peuvent pas. Donc ça ne marche pas également. Donc dès lors que vous ne pouvez pas augmenter la colonne de droite, ni par le biais des États, ni par le biais des augmentations de capital, il faut baisser la colonne de gauche. Et donc, il y a deux moyens de baisser la colonne de gauche. Soit vous ne faites plus de crédit, mais ça, on nous demande de faire du crédit. Et on est très heureux de faire du crédit. Mais alors, pour pouvoir le faire, il va falloir vendre d'autres crédits. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, nous savons que c'est agiter un chiffon rouge que de reparler de securitization, puisque securitization est... par le biais des subprimes, est à l'origine de toute la crise, avant Lehman. Donc évidemment, c'est un chiffon rouge que de parler de securitisation. Mais pour le moment, compte tenu de ce qu'on sait faire, la seule solution, surtout si Basel Dry est très contraignant, ça va être de trouver des formes affinées, je ne sais pas comment il faut dire, de securitisation. Et il y a des présidents de banques qui en parlent, le président de la Deutsche Bank, on a parlé publiquement il y a déjà... plusieurs mois. Le président de Kreditanstalt für Wiederaufbau en Allemagne en a parlé très récemment, etc. On ne connaît pas d'autres moyens. Soit on augmente ici, mais ce n'est pas possible. À ce moment-là, il faut baisser là-bas. C'est bête et méchant, il n'y a pas d'autre solution. Alors, il y a deux différences entre la Grèce et d'autres pays. Le premier, c'est la taille de l'économie. La taille de l'économie de la Grèce n'a rien à voir avec la taille de l'économie espagnole, par exemple. Alors, le Portugal, d'accord. Et puis, il y a une vraie différence. C'est que la Grèce a menti. La Grèce a menti au moment de l'introduction dans l'euro. Alors, il ne s'agit pas de porter des jugements de valeur, donner des leçons de morale. On pourrait dire, ben, tant pis pour vous, vous n'aviez pas besoin de mentir. Bon. On peut argumenter comme ça. On peut dire, ben, les Grecs, ils en ont bénéficié d'avoir l'euro. C'est-à-dire que les taux d'intérêt pour acheter une maison, pour acheter une voiture en Grèce, depuis l'introduction de l'euro, depuis qu'eux sont membres de l'euro, ils sont à des niveaux très très bas, qui sont les taux moyens de l'euro. Donc les citoyens grecs en ont tous profité. Alors que si la monnaie avait continué à être la drachme, eh bien, les taux d'intérêt auraient été beaucoup plus élevés. Bien. Donc, on peut prendre l'attitude qui consiste à dire, ben, mais nos chers amis grecs, il fait très beau chez vous, mais tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à avoir de meilleurs politiciens qui ne mentent pas à l'ensemble du monde et en particulier aux autres amis européens, et puis de toute façon, vous en avez profité. Ça, c'est une attitude qui est possible parce que c'est la vérité, elle n'est pas contestable. Simplement, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part, cette attitude. D'où des questions qui sont d'ordre beaucoup plus important, et en particulier la survie de l'euro. Et la première attitude, c'est un peu l'attitude des Allemands. Les Allemands qui sont même allés beaucoup plus loin, le président d'un des cinq grands instituts économiques, le WIFO, alors lui, il a rajouté de l'huile sur le feu, juste avant la décision du gouvernement fédéral allemand, il a dit, de toute façon, les Grecs ne nous rembourseront jamais l'argent. C'était pas très malin de dire des choses comme ça. Parce que je voudrais bien savoir, moi, quand est-ce que, même l'Allemagne qui est un pays modèle, quand est-ce qu'elle va rembourser les dettes qu'elle a, puisqu'elle les renouvelle tout le temps, ses dettes. Donc elle ne les rembourse jamais, comme tous les autres pays. Donc c'était complètement idiot de dire des choses comme ça. C'était rajouter de l'huile sur le feu, sans être constructif et sans faire de propositions. Bien. Et donc l'attitude, compte tenu des enjeux, et l'enjeu de la stabilité de l'euro est majeur, non seulement pour la zone euro, non seulement pour l'Union européenne, non seulement, mais pour le monde entier, on ne peut pas se permettre d'avoir l'euro qui se casse la figure, qui explose en vol. Donc il faut faire les efforts, montrer de la solidarité, même si on a toutes les raisons de se dire cette solidarité, elle n'est pas justifiée. Mais c'est notre intérêt à tous. Je crois que les Allemands ont fini par le comprendre, ont fini par l'accepter, mais c'est vrai qu'ils ont les élections en Nordrhein-Westfalen, etc. Il y avait des éléments de politique interne importants. Bien. Alors, les autres pays, là on retombe également dans les imbécilités scandaleuses des salles de marché. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, tous les marchés du monde se sont cassés la figure. Pourquoi? Alors même que le rescue package de la Grèce était signé, ficelé, d'accord. Et tout d'un coup, tous les spéculateurs du monde entier se sont dit, bon ben ça y est, la Grèce est sauvée, où est-ce qu'on peut faire de l'argent? Où est-ce qu'on peut faire de l'argent en vendant à découvert? Et donc ils se sont attaqués à l'Espagne, une fois de plus. Mais là, ils ont fait très très fort hier. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a lancé une rumeur selon laquelle l'Espagne aurait pris en secret un crédit de 285 milliards d'euros auprès du Fonds monétaire international. C'est scandaleux ces rumeurs, parce que le Fonds monétaire international n'a pas le droit de prêter en secret. Et puis 285 milliards d'euros, enfin c'est n'importe quoi, ma motion de cash est une c'est scandaleux des comportements pareils. Parce que du coup, tous les marchés se sont cassés la figure hier, tous les marchés boursiers, à Vienne aussi, et aujourd'hui ça a continué. Quand je suis parti tout à l'heure du bureau, on était en moins 2% sur la bourse de Vienne, sur la ATX, après avoir été à moins 4% hier. Alors, il y a des petits imbéciles, des spéculateurs qui gagnent de l'argent parce qu'ils ont vendu des actions espagnoles qu'ils ne détiennent pas. Et puis ils les rachètent maintenant beaucoup moins cher pour couvrir leur position. Mais en attendant, nous tous qui détenons des actions autrichiennes, eh bien, elles ont perdu 4% hier et 2% aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que ça va mal se terminer. J'espère que pour les spéculateurs, ça va mal se terminer un jour ou l'autre. Ce serait très bien. Mais on est dans une époque de comportement scandaleusement irresponsable sur des sujets pareils. Mais l'Europe fera ce qu'il faut pour que l'Espagne ne saute pas. Évidemment, c'est pas possible. Mais l'Espagne n'est pas sans reproche. Hein. L'Espagne n'a pas menti, le Portugal n'a pas menti. En revanche, l'Espagne a fait des bêtises au niveau de sa bulle immobilière. Ils ont laissé se développer un marché immobilier dans des conditions et des proportions qui étaient déraisonnables, ça c'est clair. Hein. Bon, enfin, tout le monde fait des erreurs. Hein. Les Français les premiers, les Autrichiens peut-être aussi, donc tout le monde en fait.
Bon, c'est vraiment la dernière.
Moi j'ai le temps, hein.
Oui, mais bon. Vous
avez parlé de la responsabilité du gouvernement et d'aider les banques dans la crise, de l'aider à la crise. Mais au contraire, est-ce que vous pensez que c'est responsable de la banque de changer le siège ou le Cayman Islands pour éviter de payer une banque au gouvernement qui a aidé la banque?
C'est une question de morale, ce n'est pas une question de législation. Parce que tous les paradis fiscaux, je ne veux pas défendre, hein, mais tous les paradis fiscaux sont le résultat de trous qui existent dans les législations. Il y a tous les fonctionnaires du monde sont parfaits, tous les députés du monde sont parfaits, mais certaines fois, ils ne pensent pas toujours à tout. Et il y a toujours des experts fiscaux qui arrivent à trouver un petit truc qui manque dans la législation et qui en profitent. Donc, très souvent, les paradis fiscaux étaient légalement inattaquables. Donc, le sujet n'est pas la légalité, sauf à changer les lois. Le sujet, c'est la morale. Et là, ça devient difficile, parce qu'il y a des intérêts en jeu considérables. Il y a les îles Caïmans, mais on a bien vu autour de Liechtenstein qu'il y a aussi l'Autriche, aussi la Suisse. Tout le monde y est, le Luxembourg, les Anglais. Chacun a sa propre législation fiscale et refuse de la changer parce qu'il craint que ça ait un impact négatif majeur sur sa propre économie. Et c'est d'ailleurs comme ça que dans tous les traités de l'Union européenne, plutôt que dans aucun traité de l'Union européenne, il n'y a d'accord sur une unicité fiscale. Les Anglais s'y sont toujours opposés. Ils disent la fiscalité, c'est du domaine de l'autorité de base d'un pays. Et donc, il n'est pas question de partager les règles fiscales ou les niveaux fiscaux avec nos pays partenaires de l'Union européenne. Le Luxembourg, depuis toujours, vit de par ses règles fiscales et il refuse, même si M. Juncker, le Premier ministre, est président de l'Eurogroupe, le Luxembourg a toujours refusé de mettre d'aligner sa fiscalité sur des niveaux semblables et des règles et des structures semblables à d'autres pays européens. Le Liechtenstein, n'en parlons pas. L'Autriche, vous avez suivi les débats depuis 2 ans. Pour chaque pays, ce sont des enjeux majeurs. Donc, le problème n'est pas de savoir si c'est légal ou pas. Très souvent, c'est légal. Le problème est la morale là-dessus. Alors là, si vous voulez qu'on parle de la morale, on se quittera à 7 heures demain matin, là. Malheureusement.
C'est pas encore 7 heures du matin, mais 6 heures du soir. Alors, on va quand même attendre ça. S'arrêter. Alors, on vous remercie encore de votre...
Avec plaisir.
C'est aussi vous qu'il faut remercier de votre patience dans une condition pas trop agréable. Maintenant, vous aurez le droit de vous reposer pendant 3 semaines. Dans 3 semaines, on se donne rendez-vous ici à 4 heures pour la suite de nos rencontres économiques. Au revoir, bonne soirée, à bientôt.